Merci beaucoup pour cette invitation. J'ai un peu un titre à rallonge, mais ce n'est pas si important. Disons que ce sur quoi je voudrais m'interroger aujourd'hui, c'est sur la façon dont on a, au niveau global, voulu prendre en charge cette question climatique, ce problème climatique, par ce qu'on appelle une gouvernance, donc une sorte d'architecture d'institution, de traité qui s'occupe de cette question. Je vais donc d'abord passer quelques temps sur cette gouvernance et sur son histoire. C'est ce que nous avons fait dans le livre que vous venez de mentionner, donc « Gouverner le climat, 20 ans de négociations internationales », qui est vraiment, au fait, une histoire de ces négociations avec une deuxième partie qui ouvre sur le présent et sur les problèmes de cette gouvernance. Donc c'est aussi cette trame un peu que je vais suivre ici, gouvernance, gouvernabilité. Donc la question, est-ce que la façon comment on a mis en politique le climat nous permet effectivement de le traiter, de le gouverner? Et troisièmement, les conditions pour une repolitisation de cette question. Voilà, en gros... Qu'est-ce que c'est la gouvernance climatique? Là, vous avez une image qui est intéressante à plusieurs titres. Donc, vous voyez ici, ça, c'est la gouvernance climatique. Donc, c'est un ensemble, là, ce qui vous paraît comme un public qui regarde une tribune. En fait, c'est des délégués d'État. Donc, c'est des représentants d'État. Là, vous avez la quasi-totalité des pays qui sont représentés dans ces négociations. Vous avez une tribune sur laquelle vous voyez le secrétariat de la Convention climat, donc de la CLUC en français, l'UNFCCC en anglais. Et il y a au pupitre, il y a quelqu'un qui parle, probablement un délégué ou un chef d'État. À côté, ce qui est intéressant toujours aussi, c'est le petit bonhomme en bleu, qui est un policier, et qui est en bleu parce que c'est un policier de l'ONU. Donc au fait, les moments de négociation, et ce n'est pas sans importance, ça peut paraître un détail, mais ce n'est pas sans importance, les moments de négociation onusiennes sont des espaces extraterritoriaux. Et donc, quand il y avait la COP21 à Paris, juste après les attentats, bien évidemment, même à ce moment-là, il n'y avait aucun policier français, en tout cas pas en uniforme, à l'intérieur des négociations. C'est un espace onusien, donc c'est une forme de gouvernement global. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de gouverner? Le climat, dit comme ça, ça peut paraître très abstrait. Quand je vous montre ces courbes, ça ne va pas devenir beaucoup plus concret, mais c'est un des problèmes peut-être du cadrage. Mais en tout cas, ça, c'est deux courbes qui sont devenues emblématiques du problème. Tout d'abord, vous avez à gauche... ce qu'on appelle la température, en fait les variations de la température globale du globe. Je ne vous en dis pas beaucoup plus puisque vous avez dû voir ce graphique ou d'autres de ce type déjà plusieurs fois. Donc la température monte et on est aujourd'hui déjà à peu près à 1 degré de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Là c'était un peu moins. Et là, le deuxième graphique, c'est la montée des émissions de CO2. Et là, vous voyez que la montée des émissions se poursuit durant ces négociations. Et il faut savoir que les négociations sur le climat ont commencé en 1990. Le CO2, c'est le principal gaz à effet de serre émis par l'homme. Il y en a quelques autres, dont le méthane et autres. Mais le CO2, c'est le plus important. Et vous voyez que non seulement durant cette phase donc, de prise en charge du problème climatique à l'échelle globale, on n'a pas réussi à diminuer les émissions de CO2, mais au fait, ils ont augmenté. Donc, l'augmentation est devenue plus forte encore qu'avant, avec une montée de plus de 3% en moyenne par an dans les années 2000. Et donc, il y a une sorte de paradoxe qui est au cœur de mon propos. Donc, nous gouvernons déjà le climat d'une certaine façon, puisque nous le modifions assez profondément. Mais au fait, la gouvernance, donc ce qui a été mis en place pour gouverner ce problème, ne semble pas avoir prise sur ce qui cause en fait, cette dégradation. une notion des relations internationales, là vous voyez le livre, mais l'important c'est plutôt de l'autre côté. Donc le régime climatique, ça comprend quoi? Les régimes en relations internationales désignent des ensembles d'arrangements, de traités, d'organisations internationales qui régissent un domaine donné. Donc là, c'est le domaine du climat. Je ne rentrerai pas dans tous les détails qu'il y a là en plus, mais disons que ça suppose d'une part une vision de longue durée sur l'établissement de ces institutions, mais aussi une certaine compréhension sur comment ces institutions qui régissent un domaine donné interagissent, comment ils peuvent mutuellement en fait se renforcer ou peut-être pas, peut-être se bloquer sur certaines questions. Donc pour le climat, l'institution la plus importante, là c'est une autre image de la même institution, c'est les COP, donc les Conferences of the Parties, qui se réunissent tous les ans depuis 1995. Tous les ans, donc il y a une conférence climat mondiale comme celle de Paris en décembre. Pourquoi 95? Parce que c'est en 92 qu'a été signée la Convention climat. Et donc 92, ensuite la signature, la ratification par les pays, etc. Et donc la première conférence des membres de cette convention a eu lieu en 95 à Berlin. Là, vous voyez quelques chiffres pour la COP de Paris, pour savoir la taille de ces événements. Donc on a 196 parties, c'est 195 pays plus l'Union européenne. Il y avait 30 000 participants à peu près, 117 chefs d'État et de gouvernement. Selon la communication de la présidence française, c'est la première fois que autant de chefs d'État et de gouvernement se sont réunis pour un événement de ce type. Dans les négociations, pour les comprendre, juste un mot très rapide sur comment ça se passe. 195 pays, si tout le monde parle en même temps, ce ne serait pas possible d'aboutir à des consensus. Donc au fait, il y a des groupes de pays et qui s'allient sur des questions particulières. Ce n'est pas différent de d'autres négociations internationales sur ce point. Il y a quelques particularités quand même. La première étant que l'Union européenne parle d'une voix. Ce n'est pas le cas dans toutes les négociations internationales, mais de plus en plus. La deuxième, c'est l'existence très forte, au fait, d'une séparation entre les pays du Nord et les pays du Sud. Donc, est appelé dans le jargon des négociations climatiques les pays annexes 1 et les pays annexes 2, parce que c'est comme ça qu'ils ont été désignés dans la Convention climat. Et donc, la Convention climat de 92 liste les pays annexes 1 et les pays annexes 2, ce qui introduit une certaine inflexibilité au fait, dans la dénomination de ce qui est un pays développé, de ce qui est un pays en développement, et on verra que ça pose un certain nombre de problèmes. Ensuite, il y a du côté des pays du Sud, donc du G77 plus Chine, qui est le grand groupe au fait, qui réunit ces pays. À l'intérieur de ce groupe, il y a plusieurs petites alliances, dont je nommerai peut-être l'AOSIS comme un acteur très important, surtout pour les questions climatiques, puisque il s'agit de l'alliance des petits pays insulaires en développement, et donc qui porte une voie d'intégrité environnementale d'une certaine façon. Dès le début du processus, en fait, c'est un groupe de pays qui s'est constitué pour porter en fait l'alerte climatique au sein de ces négociations. Un autre groupe important aussi, mais avec des intérêts tout à fait contraires, presque je dirais, c'est le groupe arabe, qui réunit les grands groupes, les grands pays pétroliers, entre autres, et qui, depuis le début des négociations, essaye plutôt de freiner là où il peut. Et donc, vous voyez déjà que le G77, comme Chine, plus Chine, donc les pays du Sud, même s'ils agissent souvent comme un bloc dans ces négociations, sont en fait en des positions très différentes sur beaucoup de questions. Puis il y a, du côté des pays du Nord, il y a deux alliances encore qui sont importantes. Le Umbrella Group, en gros, c'est les autres, donc ceux qui ne sont pas dans l'Union européenne, regroupés autour des États-Unis. Et puis le Environmental Integrity Group, qui regroupe la Suisse et un certain nombre d'autres petits pays, le Liechtenstein, je crois, et la Corée du Sud et le Mexique. Donc c'est le seul groupe de pays qui s'est constitué pour l'instant qui est composé de pays du Sud et de l'Iran. Mais les négociations, ce n'est pas seulement les pays. Ici, vous voyez une image, là encore, de Copenhague, en fait, qui ressemble plus à une foire. Donc, ces négociations réunissent aussi tout un ensemble d'acteurs de la société civile qui se mobilisent autour, et pas seulement dans les conférences, mais aussi à l'extérieur des conférences. Donc, à Paris aussi, il y avait cette discussion sur les manifestations qui étaient d'abord interdites, puis interdites. Et dernier acteur qui me semble important à mentionner au moins, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur les résolutions du climat, le GIEC. Et donc le groupe, en fait, c'est un groupe d'experts composé de scientifiques qui produisent des rapports réguliers, tous les 5 ans à peu près, et qui rythment en fait les négociations avec ces rapports. C'est des rapports d'évaluation. Le GIEC ne fait pas de recherche lui-même, mais il fait une synthèse des connaissances sur 3 domaines, sur l'état des connaissances en ce qui concerne le système climatique, donc, c'est ce que vous voyez à gauche, the physical science basis, puis tout ce qui concerne les impacts et l'adaptation. Donc là, vous avez d'autres disciplines qui sont impliquées, notamment la géographie, mais pas seulement. Et puis à droite, vous avez mitigation of climate change. Là, c'est surtout des économistes et des sciences sociales qui s'intéressent, et surtout des économistes, qui s'intéresse aux questions donc des mesures à prendre pour lutter contre le changement climatique. Donc sur l'histoire de ces négociations, on peut les subdiviser en 3 grandes phases, si on veut, qui sont d'abord une première phase, au fait, qui couvre en gros les années 90. J'ai surtitré ici Espoir et première fracture. Pourquoi ? Parce que c'est là que les grands traités, au fait, sur le climat sont signés, ratifiés. C'est quoi ces grands traités ? C'est la Convention climat dont je viens de parler, donc 92, et puis le protocole de Kyoto de 97, qui est le premier à signer des objectifs chiffrés de réduction d'émissions aux pays développés, et seulement aux pays développés. La Convention climat introduit donc cette différenciation entre pays développés et pays en développement. On a parlé du mur de Berlin, puisque la première conférence était à Berlin, donc 1995, et c'est là que s'est décidé que ce serait seulement les pays développés qui auraient des objectifs de réduction. C'est un jeu de mots. C'est ancré, au fait, cette différenciation est ancrée à la fois dans les deux annexes, annexe 1 et annexe 2, mais aussi sous la notion de responsabilité commune mais différenciée, qui est dans la Convention climat, qu'on retrouve dans le protocole de Kyoto, et qui dit qu'on, donc, le changement climatique, c'est un problème global qui nous concerne tous, mais au fait, les responsabilités pour le combattre et pour ce problème ne sont pas égales selon qu'on est un pays du Sud ou un pays du Nord. Et donc, c'est d'abord les pays du Nord qui doivent faire des efforts. Malgré donc cette institutionnalisation progressive du problème climatique sur l'échelle mondiale, avec les traités qui sont signés, avec des institutions qui sont créées, on a des tensions croissantes au niveau géopolitique et qui sont très importantes pour le climat, parce que quand on regarde source des émissions de CO2 et aussi une partie des sources d'émissions de méthane, on se rend compte que le climat, c'est en grande partie, pas seulement, mais c'est en grande partie un problème d'énergie. Et donc, ce qui se passe au niveau énergétique ou au niveau géopolitique sur ces questions-là n'est pas sans importance pour la gouvernabilité, pour la capacité à gouverner ce problème. Et donc, il y a les guerres d'Irak, au fait, la première guerre puis la deuxième guerre d'Irak à la fin de cette période, juste au début de la prochaine, et on a surtout, au fait, au niveau interne des États-Unis, une chose importante qui se passe avec le courant néoconservateur qui va gagner la bataille interne, la bataille idéologique au sein des États-Unis. Durant cette période, je vous rappelle, c'est d'abord George Bush père qui est président, ensuite c'est Clinton pendant 2 mandats. Et Clinton va perdre, en fait, durant ses 2 mandats, il va perdre le Congrès aux Républicains, la même chose qui s'est passée avec Barack Obama. Et donc, il va être bloqué au niveau interne pour pouvoir signer et ratifier un traité sur le climat. Et c'est quelque chose de très important puisque, justement, c'est ce qui conduira les États-Unis à faire défection du protocole de Kyoto. Les États-Unis sont signataires du protocole de Kyoto, mais ils ne l'ont jamais ratifié parce que, au fait, Clinton savait très bien qu'il ne pourrait jamais le ratifier, le Sénat serait contre. Et donc, il a attendu, et après, une fois que George W. Bush, cette fois-ci, est passé aux manettes, en 2001, il a décidé qu'il ne ratifierait plus le traité de Kyoto. Protocole de Kyoto. Donc, ça nous amène à la deuxième période, tandis que la première, une chose que je n'ai pas dite, c'était surtout une négociation en fait entre pays développés. Puisque si c'est les pays développés qui doivent faire des efforts de réduction et pas les autres, dans ce cas-là, c'est surtout entre ceux-là que ça se négocie. Il y avait aussi une sorte de scepticisme initial des pays en développement en fait, envers cette question climatique. Puisque ce que beaucoup de disaient, c'est finalement, est-ce que ce n'est pas un autre cauchemar que vous fabriquez en fait, pour nous entraver notre développement. Il y a, quand on regarde historiquement comment sont discutées ces questions au niveau onusien, on voit progressivement un abandon en fait, de ce scepticisme des pays en développement. Et c'est pas sans lien. Avec le travail du GIEC, dans lequel en fait, les scientifiques du Sud aussi sont impliqués de plus en plus, et donc il y a d'une certaine façon intégré aussi des points de vue du Sud. On peut discuter après si c'est assis ou pas, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et donc, on a une négociation qui va devenir une négociation d'une négociation nord-nord entre les États-Unis et l'Europe, en gros. On passe à une négociation entre l'Europe et les pays en développement, puisque les États-Unis sont en dehors des négociations. Il s'agit d'abord de sauver Kyoto, et l'Europe réussit au fait à sauver le protocole, mais avec un prix, en payant le prix fort, qui est que d'abord, au fait, le processus est officiellement scindé en deux, avec des négociations qui se passent pour le protocole de Kyoto et des négociations qui se passent sous la houlette de la Convention climat et qui incluent les États-Unis, avec aussi un protocole de Kyoto qui va être qui va être sans dents, si on veut, puisqu'on va, pour avoir la Russie et pour avoir le Japon dedans, l'Europe va faire des concessions assez importantes en ce qui concerne, par exemple, le comptage des puits de carbone. Je ne rentre pas dans le détail, mais disons que, en fait, on va compter des larges quantités de CO2 absorbées par des puits naturels qui vont permettre, en fait, à ces pays-là de ne rien devoir faire. On a ensuite la montée d'un ensemble de thématiques qui sont chères aux pays en développement, par exemple l'adaptation. Les questions de développement. On a, durant cette période, un activisme du G77 et on peut dire qu'en fait, on a des négociations où le G77 charge la barque en fait, avec de plus en plus de questions qui sont chères au pays en développement, mais qui ne concernent pas, si on veut, l'enjeu de la réduction des émissions proprement dites. Et on est dans une phase où on attend en fait, le retour des États-Unis. Et c'est ce qui va se passer en 2008. 2008, élection d'Obama. 2009 a été identifié comme la date pour la conclusion d'un nouveau traité universel qui devrait succéder à Kyoto. Et finalement, ce qui se passe à Copenhague, donc 2009, je ne sais pas qui de vous se rappelle, mais un échec monumental. Un accord qui est... négocier un coin de table entre les États-Unis, entre Obama en fait, et le ministre chinois, en associant un petit peu le Brésil et d'autres émergents, mais en gros, c'est ces deux-là qui négocient. Ça tient sur une page, et donc c'est l'échec de toute une voie de négociation qui va finalement trouver sa fin là, et finalement déboucher sur. Ce qu'on a aujourd'hui avec l'accord de Paris, et j'y reviens dans un instant. Donc, J'ai surtitré ce passage, donc, ou cette période, comme la constitution d'un schisme. Pourquoi parler de schisme? En fait, c'est une notion que nous avons introduite et qui vient des sciences politiques, avec un politiste allemand, en fait, politiste sociologue allemand, et qui décrit d'abord des périodes, en fait, lui, il l'utilise pour décrire des périodes de crise institutionnelle et constitutionnelle, où il y a un écart de plus en plus grand, à un premier niveau, on peut dire, entre ce qui est dit et ce qui est fait, talk and action. Bon, ça c'est un premier niveau, mais un deuxième niveau qui est peut-être plus intéressant, c'est entre une légitimité, au fait, de jure, donc au fait qu'il y ait une légitimité des procédures, une légitimité du processus démocratique et une légitimité de fait. Et dans l'exemple que choisit Necht, ce qui est la République de Weimar et le Principat sous Rome, qui sont au fait où il y a une forme de légitimité qui se développe, qui passe par l'occupation des rues et autres, alors que le processus démocratique continue en apparence. Et on a un petit peu la même chose au niveau des négociations climatiques durant cette période, puisque les procédures continuent, on va continuellement, en fait, on va de négociation en négociation, on va continuellement sauver le processus. Quand vous regardez les textes de cette époque, on a toujours l'impression que le processus est au bord du gouffre, et finalement, on a réussi à sauver le processus. Et bien évidemment, on sauve le processus, c'est pas du tout le climat. Et donc, à côté de ça, se déploie une géopolitique de ressources, une compétition économique entre États, qui ne fait que s'aggraver, en fait, et on peut y ajouter une remilitarisation des relations internationales à partir des guerres du Golfe, et on voit aujourd'hui les conséquences à long terme. Donc, le constat de cette période et de cette première partie, c'est une perte de prise de la gouvernance climat sur les processus, au fait, qui dégradent, qui gouvernent le climat. Et une des hypothèses serait que ça a à voir, bien évidemment, avec les raisons géopolitiques dont je viens de parler, avec le rôle des États-Unis, etc., mais ça a aussi à voir peut-être avec un certain cadrage du problème climatique. Qui empêche et qui a empêché au fait au niveau international de s'y prendre autrement en fait pour essayer de gouverner le climat. Et là vous avez deux images qui montrent un imaginaire au fait qu'on associe au changement climatique, qui sont aussi des images que vous allez trouver dans 80% je dirais des articles qui traitent du climat de proche ou de loin. Maintenant, c'est peut-être un petit peu en train de changer, on pourra en discuter. Le premier, bien évidemment, les ours polaires, un grand classique, et qui montre tout de suite, au fait, deux choses. C'est premièrement, les ours polaires, c'est quoi? C'est d'abord un problème. Les animaux, l'environnement, en fait, c'est un problème environnemental. Et ça montre aussi tout de suite la globalité du problème. Pourquoi la globalité? Parce que bien, les industries qui émettent les activités industrielles qui causent le problème climatique sont très loin en fait de l'habitat de ces animaux, et donc on a dans une image déjà la globalité du problème qui est intrinsèque ou qui serait intrinsèque au climat. Deuxième image, c'est une usine, très souvent d'ailleurs dans des articles français sur le climat on voit des usines allemandes. Dans le monde, je vais repérer plusieurs fois, c'est intéressant. Et là aussi, c'est une certaine façon de cadrer le problème. Pourquoi? Parce qu'on va parler d'abord des émissions de CO2. Et c'est effectivement sur les émissions de CO2 qu'on négocie aussi, qu'on a négocié pendant très longtemps dans les négociations climat. On ne va pas du tout négocier, par exemple, sur des processus industriels, sur des technologies concrètes, etc. Et donc, on peut résumer ça, pour aller très vite, comme un cadrage en termes de problèmes environnementaux et global. C'est un problème d'environnement, c'est un problème global, et c'est un problème d'environnement, au fait, qui peut être saisi par les instruments qu'on utilise pour d'autres problèmes de pollution. Pour ça que je vous ai montré le deuxième image. Et donc, ce qu'on pourrait appeler le paradigme de pollution, c'est en fait ça a à voir avec, là aussi historiquement, avec l'émergence du climat, du problème climatique, ça montait sur l'échelle internationale, se fait en même temps que deux autres problèmes, ou juste après deux autres problèmes environnementaux importants, qui sont la question des pluies acides et la question de l'ozone. Et l'institutionnalisation au niveau international se fait juste après ces problèmes. Et d'ailleurs, certains des acteurs importants de l'alerte climatique sont en même temps des acteurs importants de l'alerte de l'ozone. Et donc, les instruments qu'on va mettre en place, à la fois au niveau international mais aussi au niveau national, dans beaucoup de pays, sont des instruments qui essayent de régler le problème en fin de tuyau. Ça veut dire qu'on va réguler les émissions, et comme je disais tout à l'heure, pas par exemple les questions de technologie énergétique, l'extraction, la production d'énergie fossile, c'est des questions aussi qu'on pourrait mettre sur, l'agenda, pas les questions d'infrastructure. Donc ça se voit aussi quand on discute des questions climatiques au niveau français, on va plutôt parler au niveau des pays aussi, on va parler de la réduction des émissions, et bien évidemment au niveau du gouvernement on va tout faire pour ne pas lier la question par exemple de Notre-Dame-des-Landes avec la question du climat, parce que l'une concerne les infrastructures et l'autre les émissions. Et donc, deuxième chose, paradigme environnemental, au niveau institutionnel, ça veut dire qu'on sépare le climat d'autres institutions qui régulent d'autres domaines des relations internationales. Et c'est notamment les questions d'énergie, les questions de commerce, de développement et de finance. Et c'est quelque chose qui est en train, pour certains de ces domaines, qui est en train de changer. Par exemple, on a aujourd'hui toute une discussion sur les banques multilatérales de développement et sur la nécessité que ces banques multilatérales de développement financent plus les renouvelables et moins les énergies fossiles. Mais bon, on a quand même, pour la Banque mondiale, par exemple, on a des chiffres qui montrent que très massivement, encore aujourd'hui, des centrales à charbon sont financées, alors que la Banque mondiale se positionne dans l'arène climatique comme celle qui veut gérer les fonds, celle qui veut être aux manettes de la finance climatique. Et puis finalement, au niveau de l'échelle, donc l'échelle globale est identifiée comme la seule échelle pertinente. C'est d'ailleurs, vous voyez quand vous regardez tout un ensemble d'économistes, c'est particulièrement flagrant, puisque la solution des économistes classiques pour le changement climatique, généralement, c'est qu'il faut un traité, il faut un prix au niveau global, et le mieux, ça serait qu'il y ait un marché qui, pour que ce prix soit établi par le marché. Et au fait, toutes les autres solutions sont imparfaites. Il y a de plus en plus de travaux aujourd'hui qui essayent de repenser ou de critiquer ce cadrage et de dire, non, en fait, il y a beaucoup de problèmes d'action collective ou des solutions polycentriques, au fait, où il n'y a pas besoin d'avoir un régulateur social central, mais en fait, où l'action décentralisée beaucoup d'acteurs peut avoir des effets bénéfiques, voire meilleurs. Et puis, il y a des cadrages tout à fait différents. Quand vous entendez des discours de l'Inde, généralement, le cadrage du problème climatique va plutôt être de ce type-là. Ce qu'on voit sur cette image, c'est d'abord une concentration en fait, de la production d'électricité dans certains pays. Et ce que va dire le Premier ministre indien, généralement, ce qu'il a dit aussi dans sa conférence inaugurale à la COP21 à Paris, c'était que le problème fondamental de l'Inde, c'est 300 millions de personnes qui sont sans accès à l'électricité. Sans accès à l'électricité. 300 millions de personnes, et donc ça donne un ordre de grandeur. Et donc c'est un recadrage assez radical de comment discuter des questions climatiques. Bien évidemment, ça c'est une autre façon de le représenter, ce problème. Là c'était un papier qui est paru dans Nature, ensuite il y a eu un grand article dans le Guardian, et puis un rapport de deux institutions, qui essayait de retracer au fait les émissions sur les entités publics ou privés qui les ont pré-produites. Et là, vous voyez que 90 entités, en gros, ont contribué pour plus de 60, pour plus de 2 tiers, en fait, des émissions de CO2 depuis l'ère industrielle. Une autre façon de discuter le problème ou d'établir des responsabilités. Et aussi, une autre, ça ouvrirait en fait, d'autres voies de régulation, puisque ce que proposent les auteurs, c'est que ça serait beaucoup plus efficace en fait, d'avoir une taxe sur l'extraction des énergies fossiles, qui serait prélevée à la source, donc ceux qui polluent, pour financer, par exemple, l'adaptation, et qui instaurerait donc une sorte de principe pollueur-payeur. Et évidemment, dans les négociations, on est très loin de parler de ces choses-là. Là, c'est encore une autre façon, mais je vois que j'ai plus beaucoup de temps, donc je vais accélérer. On a un autre décalage ou une autre volée de ce schisme entre, finalement, qui est presque, je dirais, au niveau temporel, en fait. Puisque si on dit que le problème climatique, c'est un problème qui a à voir en fait, avec la façon comment fonctionne la globalisation économique et financière, qui a à voir avec comment fonctionne la géopolitique de l'énergie, dans ce cas-là, on a un problème, c'est qu'il y a plusieurs accélérations en fait, qui ont bouleversé pas mal de facteurs durant les dernières décennies. Donc, d'une part, bien évidemment, la globalisation économique et financière, qui est plutôt un processus de longue durée, mais qui a mené à une extension du modèle de développement occidental. Mais ensuite, deux choses plus récentes qui ont été mal prises en compte dans les négociations climatiques, dans la gouvernance climatique, c'était d'une part, en fait, la croissance de l'économie chinoise. Et pour avoir une idée, j'aime beaucoup ce chiffre. En fait, la Chine a été la 9e économie mondiale en 90, donc au début des négociations. La 9e économie mondiale après l'Italie. Et elle est passée au plus grand émetteur en 2006, donc dans l'espace de 16 ans, de 15 ans. Ce qui est, bien évidemment, quand on regarde les négociations, quand on regarde la différenciation entre pays annexe 1 et pays annexe 2, la façon comment ça évolue lentement, etc., ces notions-là, on a beaucoup de mal, ou les négociations ont beaucoup de mal de prendre en compte ce facteur. Et aujourd'hui, on parle de l'Inde comme une Chine plus 15, avec donc 15 ans de retard sur la Chine, mais sur la même trajectoire de développement. Et bien évidemment, au niveau énergétique, mais là je ne rentrerai pas dans le détail, disons une chose juste, c'est la question des gaz et pétrole de schiste. Si aujourd'hui les États-Unis ont une position plus allante sur les questions climatiques, c'est essentiellement, ou une des raisons essentielles, c'est parce qu'ils se fournissent aujourd'hui à partir d'un gaz naturel issu de la fracturation hydraulique qui est très bon marché. Et qui est beaucoup moins polluant pour le climat, en tout cas, que le charbon. Et donc, il y a toute une série de centrales à charbon qui ont fermé, bien pour les États-Unis, puisque ça baisse leurs émissions, mauvais au niveau mondial, parce que du coup, ils essayent d'exporter le charbon. Et ça a mené à un bouleversement du paysage énergétique et des prix de l'énergie au niveau mondial, avec notamment un certain nombre de pays européens, dont l'Allemagne, en fait, qui ont temporairement, durant les dernières années, augmenté leur importation de charbon, tout simplement parce que c'était moins cher que les autres sources d'énergie. Et face à ça, on a une lenteur de négociation. Quand on regarde, là encore, par exemple pour Kyoto, l'exemple chinois est parlant, mais c'est pas le seul. On a commencé ces négociations au début des années 90. Ça a été adopté en 97. C'est une faute, en fait, sur le... Là. Et c'est entré en vigueur en 2005. Alors, entre 90 et 2005, le monde avait changé. Et on peut se demander si la même chose n'arrivera pas avec l'accord de Paris, qui a été négocié depuis 2011, pour le rappeler, et qui n'entrera en vigueur qu'en 2020. En 2020, le monde tel qu'il sera, c'est justement une question. Bon, d'où cette installation que j'aime beaucoup. Donc, Isaac Cordal, c'est un artiste et qui a installé ça à plusieurs endroits. Là, je pense que c'était à Copenhague. Politicians debating global warming. Politiciens qui débattent du réchauffement climatique. Bon, j'utiliserai les 5 dernières minutes qui me restent pour jeter un petit coup d'œil à la COP21. Qu'est-ce qui s'est passé à la COP21? Est-ce qu'on est sorti de l'affaire? Parce que maintenant on a un accord. Je passerai rapidement en disant qu'est-ce qui était la COP21. C'est l'événement COP21 en soi, bien évidemment, mais c'est aussi toute une préparation en amont. Le mandat pour la COP21 est en place depuis 2011, depuis la conférence de Durban. C'est ce qu'on appelle le mandat de Durban. Et là, vous avez les différents événements, et ce n'est pas tous les événements, en fait, il y en a que quelques-uns, qui ont eu lieu durant l'année 2015. Donc en amont des négociations, elles-mêmes qui se sont tenues du 30 novembre au 11 décembre. Donc déjà, au niveau temporel, on a une concentration d'un processus qui est plus long, mais aussi au niveau spatial, quand on regarde les négociations, en fait, ils se sont tenus dans ce que vous voyez comme le hall 6 du site du Bourget, donc qui est tout en haut. Et les salles plénières en rouge. Sachant que les salles plénières, c'est plutôt pour les discours, les réunions, les vraies négociations, c'est dans les salles de réunion. Ensuite, vous avez tout un ensemble d'espaces qui sont pour la société civile, et à l'extérieur de cet espace, en plus, l'espace Génération Climat, la galerie qui était pour les entreprises, et à l'extérieur de ça, au niveau de Paris, tout un ensemble d'événements de la société civile. Je vous montre tout ça parce que, en fait, spatialement et temporellement, il y a une contraction, il y a une sorte de... de réduction, en fait, des enjeux à un espace, un lieu et à quelques thématiques qui me semblent importantes. On a suivi ces négociations avec une équipe de chercheurs, une vingtaine de chercheurs, qui justement, pour essayer de rendre compte de cette diversité de lieux et de diversité de thématiques et de cadrages qui circulent dans ces lieux. Et ce sur quoi, donc la réduction finale, c'est ce sur quoi on va vraiment discuter. Et là, vous voyez, ça c'est une photo prise par moi-même durant les négociations. Là, c'est à Bonn, mais ça pourrait être à Paris. Et vous voyez... quelque chose que je trouve assez marrant, c'est vraiment un document Word. C'est une sorte d'exercice de traitement de texte, en fait, avec 195 pays en présence qui disent non, nous on voudrait ce mot là, ou plutôt une virgule, ou quelque chose comme ça. Donc en fait, on négocie sur un texte. Et c'est d'ailleurs, ce texte est reconnu, y compris par les ONG et autres, comme le thermomètre des négociations. Ça veut dire, là, j'ai collectionné, juste à partir des différents sites, au fait, qui faisaient état à chaque fois de l'avancement des négociations en termes de réduction du texte. Donc, on avait un texte complètement illisible, 86 pages à Genève, qui a été réduit un peu à 76 pages en juillet. Puis, lors des négociations, là, c'est toujours des négociations intermédiaires, en fait, qui ont le 5 octobre 20 pages, tout le monde criait, on y est presque, on a presque réussi. Et puis au moment où ce texte a regrossi parce qu'un certain nombre de pays n'étaient pas d'accord, 51 pages, tout le monde disait non, maintenant c'est foutu, au fait ces négociations, bon, on ne tire à rien, etc. Donc au fait, le texte comme le thermomètre, le texte comme ce qui concentre toutes ces négociations. Là, je ne vais pas avoir le temps d'aller là-dedans, mais disons que les discussions dans les négociations en même temps aussi portent sur le texte, mais aussi sur, souvent et presque exclusivement en fait, sur les procédures à établir ce texte. Donc, en fait, qui peut ajouter à quel moment quelle chose, qu'est-ce que veut dire exactement un bracket ou un, donc en fait le bracket c'est ce que vous voyez là Est-ce que ça signifie que, normalement, ça signifie que quelque chose est encore controversé, mais on peut avoir des interprétations différentes selon la place où c'est, etc. Et là, vous avez une manifestation à l'intérieur de la COP, donc les manifestations prennent la forme de ces codes des négociations. Là, ils manifestent parce que la notion de intergenerational equity qui avait été dans le texte a été mise sous brackets et puis montée dans la préambule, et ça pour les jeunes qui manifestent ici, c'était insupportable. Donc, qu'est-ce qui en sort de cette conférence de Paris? On a un accord qui est universel dans le sens où il inclut tous les pays. Il est fondé sur un droit mou dans le sens où il compte uniquement sur les contributions volontaires des pays. Il instaure des objectifs à long terme très ambitieux, de 2 degrés, voire 1,5 degré. Quand on parle avec des climatologues, ils disent que c'est déjà pratiquement exclu. En tout cas, les 1,5 degrés, les 2 degrés, c'est extrêmement difficile. Et il instaure un processus de revoyure régulier pour renforcer, en fait, les contributions nationales dont on sait aujourd'hui déjà qu'ils ne sont pas suffisants. Il y a des choses sur l'adaptation des pertes et dommages, on pourrait y revenir si ça vous intéresse, et sur les questions financières et la différenciation. Par contre, là où ça devient beaucoup plus flou, c'est quand il s'agit concrètement de désigner quelle sera la transformation de l'économie mondiale qui est nécessaire. Et là, il dit, l'article 4 essaye de donner une réponse, et c'est de parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle. Il faut savoir qu'il y avait des propositions comme décarbonisation de l'économie mondiale, fin des subventions aux énergies fossiles ou sortie des énergies fossiles, etc. Tout ça, bien évidemment, a été exclu. Donc, et je terminerai sur ça, quelques illusions dont il faudrait se défaire, je pense, et même après l'accord de Paris, c'est d'une part, effectivement, tout ne va pas se régler au niveau global. L'accord de Paris, sur lequel on peut beaucoup, qu'on peut et qu'on doit beaucoup critiquer, mais semble aujourd'hui dessiner, il me semble, ce qui est possible au niveau international. Parce qu'on a vu très clairement que ce n'est pas seulement les États-Unis, ce n'est pas seulement les pays développés, la Chine, l'Inde, etc., ils ne veulent pas s'engager sur des objectifs qui freineraient leur développement. Et donc, voilà. Il faut en prendre acte. Et donc, une deuxième chose qui est là sur le long terme, c'est l'accord sur la science, très visiblement, ne suffit pas pour déclencher l'action. La science a été importante, les rapports du GIEC, etc. Mais en fait, aujourd'hui, les questions sont sur des choix politiques. Qu'est-ce que politiquement ça veut dire de maintenir par exemple un régime où le commerce international prime alors que en même temps on veut combattre le réchauffement climatique et le contenir à 2 degrés? Est-ce que c'est compatible? Est-ce qu'il n'y a pas des choix à faire à ce niveau-là? Et ça nous amène à la troisième question. Donc, le climat a été discuté à travers une lecture surtout environnementale pour l'instant, alors que c'est un problème qui est autant géopolitique, qui est social, qui est économique. Et d'ailleurs, les syndicats, par exemple, sont des acteurs de plus en plus importants dans les négociations. Ils essayent de faire pression parce qu'ils savent que s'il y a vraiment transformation de l'économie mondiale, dans ce cas-là, ça les concerne en premier lieu, et s'il n'y en a pas, ça les concerne aussi. Et donc, dernier point, si grande transformation ou transition, ou comment on veut l'appeler, s'il doit y en avoir, dans ce cas-là, il ne pourra pas se faire en catégorie par des mesures indirectes ou indolores. Par exemple, quand on regarde ici un peu simplement le fiasco des marchés du carbone, c'était typiquement l'espoir d'avoir un outil où finalement ces problèmes se régleraient plus ou moins tout seuls. On instaure un marché, on instaure qui instaure un prix, qui dirige les acteurs économiques, etc. Mais finalement, il y a des questions de politique industrielle, des questions de politique énergétique qui supposent finalement des décisions plus fondamentales si on veut maintenir ces objectifs à long terme comme les 2 degrés ou 1,5. Donc voilà, le reste pour la discussion.